Radio Okapi.
Déploiement hier dimanche des militaires ougandais à Boulé, chef-lieu du secteur des Bahema Badjere, province de l'Ituri. Ils ont été accueillis avec joie par des habitants de cette cité qui abrite aussi plus de 100 000 personnes déplacées. La présence de ces éléments de l'armée ougandaise est perçue comme un signe d'espoir du retour d'une paix durable dans la zone. La province du Kwilu vit au rythme de la campagne électorale depuis le 29 mars dernier. Les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs mènent leurs activités de propagande jusque-là sans incident. Dans ce journal, nous aurons la correspondance de Irène Mbomaluzolo depuis le chef-lieu de la province du Kwilu. Le médecin directeur du centre neuropsychopathologique de Kinshasa est l'invité de ce journal. Docteur Daniel Okitundo revient sur les deux journées de consultation gratuite, le 27 et le 28 mars, organisées par le CNPP pour sensibiliser la population sur les différentes offres médicales de ce centre sanitaire. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. En Ituri, des militaires ougandais se sont déployés pour la première fois dimanche à Boulé, chef-lieu du secteur de Bahema Badjere, qui abrite plus de 100 000 déplacés. Ils ont été accueillis avec faste par les habitants. Selon la société civile locale, leur présence est un signe d'espoir pour le retour d'une paix durable. Ainsi, ces déplacés espèrent retourner bientôt dans leur village. Isaac Remo.
C'est par cette ambiance que des militaires ougandais et leur arsenal ont été accueillis par des centaines d'habitants au centre commercial de Boulé. Ils ont quitté Fataki sur la RN27, où ils se sont installés depuis environ 3 semaines pour traquer la milice Codeco. Pour la population, leur déploiement à l'intérieur du territoire des Djougou va permettre de neutraliser tous les groupes armés actifs dans ces territoires, mais surtout mettre fin aux atrocités, meurtres, enlèvements, pillages des biens et déplacements forcés dont elle est victime depuis 8 ans, et ainsi permettre à des milliers d'habitants et déplacés de cette entité territoriale, de vaquer à leurs occupations et surtout de retourner dans leur village d'origine. Le président de la société civile locale, Charité Banza.
C'est parce qu'ils ont appliqué au moins une fois les militaires du PDF qui sont à Fataki à Bethlehem, où les Codeco massacraient la population civile qui sont dans les villages et les déplaçaient. Alors c'est le PDF a quand même essayé de les traquer une fois. Les gens croient que comme ils sont là avec la force congolaise, royaliste, ils peuvent être libérés. Les gens cherchent un soulagement.
Cette stricteur citoyenne plaide pour le déploiement de l'armée ougandaise dans toutes les agglomérations où la population est sous la menace permanente des groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, le prix du carburant dans la ville de Bounia est revu à la baisse depuis le week-end. Un litre d'essence se vend actuellement à 3300 francs congolais à la pompe. Il y a quelques jours, il coûtait entre 4000 et 6000 francs congolais pour insuffisance de stock. De nombreux camions-citernes transportant des produits pétroliers qui étaient bloqués à la cité frontalière de Mahagi sont arrivés dans la ville la semaine dernière grâce aux escortes militaires organisées pour protéger les camions ravitailleurs tout le long de la route nationale numéro 27 où s'affrontent régulièrement les miliciens de la Codeco et l'armée ougandaise UPDF. Au Nord Kivu, la société civile du Congo, section de Beni, dénonce la recrudescence de l'insécurité dans la ville, chef-lieu provisoire de la province. Cette structure citoyenne fait état des vols à main armée, d'assassinats et d'enlèvements dans plusieurs quartiers, crimes commis par des hommes armés qui troublent la quiétude des habitants. Son président, Junior Mumbere Mbalukuli Hai, rappelle les autorités à prendre des mesures pour protéger la population. Il est joint au téléphone par Martial Papimukeba.
Les cas d'assassinat, les cambriolages, les kidnappings, le braquage et d'autres formes d'insécurité qui mettent la population dans le différent par rapport à la vie quotidienne. Voici quelques cas du 29 au 30 mars 2025. Au quartier Mambango, commune Bungulu, Célie les 300 maisons, avenue des écoles, les bandits ont fait incursion chez M. Paluku Kitandiko vers 1h du matin. Ils ont apporté le matelas, souliers, etc. Chez M. Kasereka Kalenga, on récupérait de l'argent, pantalons, souliers et autres. Nous signalons aussi les cas vers 2h du matin chez le directeur de la radio RTGB dans la commune Rwenzori, quartier Kassabignolé, ont emporté une moto, l'argent non comptabilisé et un ordinateur. La situation sécuritaire de Beni demeure préoccupante.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction des autorités locales. À Goma, la nuit de dimanche à ce lundi a été perturbée par des coups de feu nourris, rapportent les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi. La même source parle de 3 corps sans vie retrouvés ce lundi matin, des personnes tuées par balles. Emmanuel Elamejo Akabedi.
Le premier cas de meurtre a été enregistré sur l'avenue Kassindi au quartier Katoy. Il n'était que 20h quand des individus portant des armes ont ouvert le feu sur une dame qui meurt sur le champ. Les témoins reconnaissent la victime, tenancière d'un restaurant de fortune, réputé pour ses savoureux plats de feuilles de manioc surnommés Sombe Kinonou. Dans les voisinages immédiats de la maison communale de Karisimbi, l'on déplore cette disparition alors que les auteurs du forfait ne sont pas encore identifiés. Les écorcorps ont été trouvés gisant dans une mare de sang au quartier Mabanga Sud. Pour quelques habitants de ce coin, ce sont les rebelles du M23 RDF qui ont tiré sur cette personne. Il n'était que 2h du matin, c'est dimanche. Il s'agirait d'un criminel connu que la population aurait dénoncé et qui s'est retrouvé dans la ligne de mire, puis abattu. Un cas similaire est également signalé dans la partie nord de la ville de Goma, à la lisière du territoire de Nirangongo. Un autre corps criblé de balles y a été signalé. Une exécution signée du M23 RDF, affirme deux témoins. C'était une nuit de terreur pour les habitants de Kasika, Mapendo, Katindo, Majengo, Mikeno et bien d'autres quartiers de la commune de Karisimbi à Goma. Des coups de feu ont retenti jusqu'aux petites heures du matin après Nounou.
Toujours au Nord Kivu, en plus bref, des acteurs communautaires du territoire de Masisi accusent les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise d'avoir tué atrocement samedi dernier un notable de l'agglomération Niabiara au village Kaira. C'est dans le groupement Bachali Mokoto. Pour ces acteurs communautaires, en effet, les hommes du M23 ont attaqué samedi une ancienne base locale des combattants du groupe Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains de Jean-Marie Bonané. Près des rues de échange des tirs avec les quelques combattants qui tiennent encore la base, le notable Baheni Safari a été pris. Accusé de collaborer avec le combattant de Jean-Marie, il a été assassiné, torturé à mort, déplore ses sources. Au Nord Kivu encore, la masculinité positive, une voie pour la paix et l'égalité des sexes, que vive la masculinité positive, c'est le thème de la journée nationale de la masculinité positive célébrée le 31 mars en RDC. À cette occasion, le groupe Martin Luther King, une association congolaise pour la non-violence active, appelle la communauté à s'engager en faveur de l'égalité des genres, le respect des droits humains, dont les droits de la femme et des enfants, pour un développement inclusif et durable. La masculinité positive ne doit rester un slogan, mais elle doit être vécue chaque instant et chaque jour pour bâtir une société juste et équitable. C'est ce que nous dit Christophe Mutaka, directeur de cette structure citoyenne.
La masculinité positive permet de construire un monde plus égalitaire, un monde respectueux. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi nous disons que cette masculinité est positive. Elle est positive parce que elle est non-violente. Elle est non-violente, ça veut dire qu'elle respecte la dignité humaine et la création. Cette même masculinité, elle est positive parce que elle respecte les droits humains. Et donc la masculinité positive contribue à la construction de familles plus solides, compétentes et de relations où les hommes et les femmes, les filles et les garçons peuvent mieux apprendre à vivre ensemble. Voilà pourquoi nous devons faire la promotion de la masculinité positive, nous devons promouvoir les droits, nous devons éliminer toutes les formes de stéréotypes à l'égard des femmes et des filles qui persistent dans notre société. Voilà pourquoi nous sommes engagés à un changement positif de comportement, parce que l'essentiel n'est pas d'avoir des connaissances, l'essentiel n'est pas d'avoir des aptitudes, mais l'essentiel c'est de changer d'attitude, d'avoir un comportement positif au sein de la communauté.
Il ajoute que la masculinité positive est l'une des solutions durables favorable aux problèmes de violence sexuelle et de celles basées sur le genre enregistrées dans nos communautés, souligne-t-il. À Kalemi, un homme a été tué et des maisons cambriolées par des bandits armés dans la nuit de dimanche à ce lundi au quartier Abattoir dans la commune Lukuga. D'après des témoins, la victime est un pasteur d'une église. Il a reçu plusieurs balles et a succombé ce matin à la suite de ses blessures dans un hôpital. L'association Umojaninguvu condamne ces énièmes cas de banditisme dans la ville de Kalemi. Rappelons que le maire de Kalemi a fait savoir que la recrudescence du banditisme dans la ville est due notamment à la présence de plusieurs évadés de la prison centrale de Kalemi et des militaires qui ont fui le front dans l'Équivaux. Nouvelle semaine des consultations politiques ce lundi 31 mars avec une ouverture aux autres forces vives de la nation et surtout celles de l'opposition. Sont en principe attendues l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, l'opposition républicaine ainsi que certaines personnalités ayant marqué la vie sociale ou politique du pays. Déjà la semaine dernière, des appels des regroupements politiques membres de l'Union sacrée se sont multipliés à l'endroit des forces politiques de l'opposition pour rejoindre cette voie ouverte par le président de la République. L'objectif étant de converger forces et idées pour sortir le pays de la crise sécuritaire dans laquelle il est plongé. D'après certaines sources proches du conseil spécial du chef de l'État, les Congolais de la diaspora seront aussi associés à ces consultations via les plateformes numériques. La campagne électorale pour les élections du gouverneur, vice-gouverneur et sénateur de la province du Kwilu, qui a démarré le 29 mars, se déroule normalement et sans incident jusque-là. Pour chacun des différents postes, plusieurs candidats sont en liste, des hommes mais aussi des femmes. Chacun d'entre eux met les bouchées doubles pour gagner la confiance des grands électeurs en vue d'une victoire le jour J. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
Dans la province du Kwilu, ces élections du gouverneur, vice-gouverneur et sénateur s'annoncent particulièrement trop serrées entre les candidats. Pour les seuls postes du gouverneur des provinces, au total 16 candidats sont en lice. Et pour les sénatoriales, au moins 69 candidatures ont été déposées pour 4 sièges seulement. Pour le moment, l'heure est à la campagne électorale devant permettre à ces candidats de convaincre les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. À cet effet, l'enceinte et les alentours de l'hémicycle provincial à Bandunduville sont envahis par des effigies et affiches des différents candidats, démontrant ainsi l'intensité de la compétition. De l'autre côté, la population kwiloise qui suit de près les événements pense que ces élections sont très importantes car elles vont enfin doter la province du Kwilu des nouveaux dirigeants. Précisons que cette campagne électorale qui a commencé le 29 mars se clôture ce lundi 31 mars à minuit heure locale. Et le mercredi 2 avril 2025, c'est le grand jour prévu pour les dites élections. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Restons dans le Kwilu. Au moins 27 enseignantes venues de 27 écoles primaires et secondaires de la province éducationnelle Kwilu 1 ont été formées à Mbanzaluté sur les violences basées sur le genre, les abus et exploitations sexuelles ainsi que sur le harcèlement sexuel. Une initiative de l'ONG Association des jeunes responsables AJR. Cette formation rentre dans le cadre du projet PERS Kwilu et a pour objectif d'installer des points focaux pour la protection des enfants contre ces antivaleurs devenues fréquent en milieu scolaire. Maître Gata Prosper Makambu, responsable de l'AJR, insiste sur la nécessité de dénoncer tout auteur de ces pratiques. Il l'a dit au micro d'Irène Mboumaluzolo.
Nous avions reçu mandat du PERS Kwilu pour aller former les points focaux VBG et ASHS, c'est-à-dire que les violences basées sur les genres, exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel. Nous sommes sans ignorer que dans le milieu scolaire, il y a pas mal de ces comportements antisociaux. Alors, pour protéger les enfants contre ces fléaux, il fallait une bonne prévention. Et la formation était une prévention pour que les gens n'en prétextent pas l'ignorance, pour que les enseignantes sachent comment protéger les enfants dans les milieux scolaires et pour que les enfants eux-mêmes sachent aussi la matière des VBG, comment se protéger, comment dénoncer en amont tout celui qui oserait poser cet acte à l'égard de l'enfant. Je vais demander à toutes les enseignantes qui ont bénéficié de cette formation, en cas de cas, il faut toujours appeler 178, cet appel il est gratuit, pour dénoncer une chargée VBG dans une école. C'est comme une police en la matière. Elle doit savoir dénoncer dans les délais pour qu'elle ne soit pas considérée comme complice.
Actualité internationale.
En France, Marine Le Pen, reconnue coupable et condamnée à 5 ans d'inéligibilité immédiate. Dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du Rassemblement national, la chef de file du RN a été reconnue coupable de détournement de fonds publics et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet et à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate par le tribunal de Paris. Marine Le Pen va faire appel, a indiqué ce lundi après-midi son avocat. Cela pourrait compromettre fortement ses chances de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2027.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le médecin directeur du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, Dr Daniel Okitundu. Le CNPP qui fête son cinquantenaire a organisé 2 journées de consultation gratuites en date du 27 et 28 mars dernier dans le but de sensibiliser la population sur ses différentes offres médicales. Dr Daniel Okitundu revient sur le pourquoi de cette initiative, les cas fréquents enregistrés au cours de ces consultations ainsi que les défis y s'entretient avec Mudumbi Benjamin.
Docteur Okitundu, bonjour.
Bonjour.
Quelle motivation avez-vous derrière cette initiative des consultations gratuites?
Oui, et c'est plutôt pour faire connaître le CNPP à la population. Parce que le CNPP est resté pendant ces 50 ans une institution mal connue, l'on dirait même une institution négligée.
Comment justifiez-vous cette négligence?
Je peux illustrer cette négligence. Rendez-vous compte qu'on a donné des appareils qu'on appelle scanners à des hôpitaux généraux, mais on n'a pas donné au CNPP. Et depuis le temps où le CNPP a été cédé à l'enseignement supérieur, nous sommes un hôpital qui n'a jamais eu une ambulance de la part de l'État congolais. Et nous pensons que le moment est arrivé pour que ce préjudice soit réparé.
Qu'est-ce que le centre offre exactement?
Ok, comme nous disons, santé du cerveau et santé mentale. Nous nous occupons de maladies qui affectent le cerveau, les maladies qui affectent le prolongement du cerveau qu'on appelle nerfs, notamment on peut avoir la paralysie du nerf facial qui affecte les gens au niveau du visage, on peut avoir la paralysie des membres inférieurs, la paralysie des membres supérieurs, on peut avoir des problèmes de vertige, on peut faire ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, ça peut être un bouton dans la circulation du sang ou ça peut être une hémorragie interne au niveau du cerveau. Il y a le problème d'épilepsie qui est d'ailleurs une maladie très fréquente, une maladie de l'activité électrique du cerveau qui se manifeste par des crises. Et puis la maladie de la personne âgée, la démence, une personne âgée qui est en train de perdre ses capacités intellectuelles et qui commence à se comporter comme un enfant et avec des comportements bizarres pour lesquels on les considère même comme sorciers. Alors du côté de psychiatrie, nous avons le maladie mentale grave qu'on appelle schizophrénie. Vous voyez ces gens qui sont en errance et qui mangent même dans la poubelle. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle le trouble bipolaire, soit sous forme d'excitation, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'activité sans dormir, ou alors sous forme de dépression. La personne a une douleur morale intense, ne fait plus rien et peut aller même jusqu'au suicide. Mais il y a le problème des personnalités. Les gens qui ont des difficultés à fonctionner sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif, sur le plan comportemental. Donc il y a le maladie mentale qui affecte l'enfant, le bébé, l'adulte moyen, les personnes de troisième âge ou au-delà. Donc nous nous occupons des maladies neurologiques, de maladies mentales, et puis nous accompagnons les personnes qui ont des difficultés psychologiques. Ça, c'est le domaine de la psychologie clinique. Les gens qui ne dorment pas bien et qui ont des manifestations anormales pendant le sommeil, pendant la nuit. Nous allons aussi nous occuper de personnes de troisième âge qui ont un problème de comportement, un problème d'intelligence en régression. Nous allons nous occuper de femmes qui, après accouchement, présentent des troubles mentaux ou sont déprimées, même des bébés qui sont déprimés. Donc le champ du travail du CNPP est vaste en ce qui concerne le service à la communauté. Malheureusement, c'est mal connu. Voilà pourquoi nous avons décidé, après 50 ans, de prendre un nouveau départ. Plus personne au Congo n'échappera au discours de la santé du cerveau et de la santé mentale. D'autant plus que notre pays a besoin de cette approche-là, de la stratégie de la santé mentale, de la stratégie de la santé du cerveau pour son développement. Nous avons tout, toutes les ressources, nous en avons. Mais nous sommes faibles mentalement et au niveau du cerveau. Et nous pensons que c'est là l'application que nous devons utiliser maintenant, ajouter à notre système de vie pour que nous puissions nous développer. Une nouvelle application qui n'est pas encore de mise. Santé du cerveau et santé mentale.
Alors, quel type de troubles neurologiques sont les plus fréquents parmi les patients qui se présentent aux consultations?
Les quelques cas que moi j'ai personnellement reçus, j'ai reçu un cas d'épilepsie, j'ai reçu les cas de troubles neurodéveloppementaux des enfants, donc des enfants qui ne se développent pas bien, et nous avons reçu des cas d'épilepsie, nous avons reçu des cas de déficience intellectuelle. Il y a des cas de séquelles d'AVC que nous avons aussi reçus. Donc, ce sont là les pathologies les plus fréquentes. Vous savez, dans 60% des cas, le maux de tête sont d'origine psychologique. Mais ces cas-là de maux de tête persistantes, l'hôpital où ils peuvent être bien pris en charge, c'est le CNPP.
Docteur Okitundu, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Au micro, c'était Noëlla Luzito Kabambi, un journal mis en onde par Mimi Kindu, le tout coordonné par Élisée Chikota.